Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition de midi, deux mois après sa déclaration en RDC, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola continue de se propager rapidement dans les territoires de Djougou à Ituri. 9 des 12 aires de santé du groupement de Limani sont déjà touchées. Au Nord Kivu, les combats se poursuivent entre les M23 et les Wazalendo à Masisi, malgré l'ultimatum américain, obligeant certains élus bien sûr à se poser des questions sur bien sûr l'issue de cette crise dans l'est de la RDC. Le recteur de l'université protestante au cœur du Congo, IPCC, Mgr Dieudonné Mbaya Tshiankanyi, est notre invité. Il évoque les défis qui freinent l'émergence d'une nouvelle élite politique en République démocratique du Congo. Merci de vous installer, je suis René Lintibonera à la présentation de cette session. En Ituri, 9 postes de santé sur les 12 que compte l'aire de santé héritage dans le groupement de Limani en territoire de Djougou ont fermé leurs portes. À la base, les débordements de ces structures sanitaires par l'afflux des malades. Les autorités coutumières locales qui livrent cette information alertent sur la propagation rapide de la maladie et plaident pour un déploiement rapide des équipes de riposte pour sauver des vies humaines. Martial Kizabiamungu.
Dans les territoires du Djougou, la maladie d'Ebola progresse plus vite que la riposte dans certaines localités. Dans les groupements Limani, par exemple, les structures médicales sont débordées par l'afflux des malades qui arrivent chaque jour. Selon les autorités coutumières du groupement Limani, 9 postes de santé sur 12 qui comptent l'aire de santé héritage auraient fermé leurs portes. Ces autorités coutumières indiquent qu'une partie de la population des Djati et Piti continue de résister aux mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, ce qui facilite la propagation de la maladie au sein de la communauté. Le chef de secteur de Walindo Djati, Justin Goudza Kiza, parle d'une situation grave qui a déjà occasionné la mort de plus d'une centaine de personnes. En attendant la réaction des responsables de la riposte, les autorités coutumières redoutent une aggravation de la situation si des équipes médicales supplémentaires ne sont pas rapidement déployées dans cette partie du territoire. Territoire de Djougou, Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les affrontements se poursuivent dans plusieurs localités du territoire de Masisi, malgré les efforts diplomatiques en faveur d'une désescalade. Selon des sources locales, des violents combats ont opposé lundi et mardi les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, au groupe Wazalendo, allié au FRDC, dont le groupement des Kibabi, Nyamaboko et Bafuna. Une situation qui aggrave de plus en plus la situation humanitaire dans la zone. Les détails avec vous, John Chibwabwa.
Mardi soir, une position de Wazalendo à Kinyaongo près de Nyabiondo a été ciblée par une attaque de drones attribuée à la FC M23. Selon les sources locales, les combats en sont mercredi à leur troisième jour dans ces entités du territoire de Masisi. Le village de Kaseni, Nyanja, Bukumbirire, Luke, Katovu, Malemo et plusieurs localités environnantes figurent parmi les zones affectées. Les affrontements entraînent des déplacements des populations et des pertes matérielles importantes. Parallèlement, le belligérant poursuivent le renforcement de leur position. Dans un communiqué publié mardi soir sur son compte X, le porte-parole de la FC M23 a réaffirmé la volonté de son mouvement de poursuivre les offensives afin d'établir, selon ses termes, un périmètre de sécurité pour les civils. Cette évolution intervient alors qu'expirait ce mercredi l'ultimatum fixé par les États-Unis appelant au retrait des forces rwandaises de l'est de la RDC afin de favoriser une désescalade des tensions dans la région.
Nous restons toujours au Nord Kivu où 3 civils ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés à Mangina, une commune du territoire de Beni située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Nous restons donc dans cette partie de la RDC. Selon des sources locales, les assaillants seraient des combattants ADF, une information qui n'a toutefois pas été confirmée par les autorités. Une attaque qui intervient après plus d'une année d'accalmie dans cette commune. Un papier de Marc Marofimbo rendu par Martial Papimukeba.
Les détonations ont ralenti mardi soir vers 20h, heure locale, dans les quartiers Home à Mangina. Selon la société civile locale, les assaillants ont tiré avant de s'en prendre à des habitations. 3 civils ont été tués et 3 autres blessés. Des maisons et une moto ont également été incendiées. Toujours selon ces sources, un assaillant présumé aurait été arrêté par les services de sécurité. L'identité exacte des groupes armés à l'origine de cette attaque reste toutefois à établir. Des sources locales évoquent une des ADF actifs depuis plusieurs années dans les territoires de Beni. Cette attaque est la première enregistrée depuis plus d'un an dans la commune de Mangina après une période d'accalmie relative. Jusqu'à présent, les FRDC ne se sont pas encore exprimés sur cette attaque. Les autorités locales appellent la population au calme et demandent aux habitants de collaborer avec les services de sécurité. À Mangina, les activités ont repris timidement ce mercredi matin, mais cette nouvelle attaque ravive les inquiétudes des habitants qui craignent un retour de l'insécurité dans cette commune. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
La mi-juillet est atteinte, mais les troupes rwandaises sont toujours présentes dans les zones contrôlées par l'AFC M23 dans l'est de la RDC. L'échéance évoquée par les secrétaires d'État américains Marco Rubio pour les retraits n'a pas été respectée. Face à ces constats, le député national Joseph Nkoy, élu des Katakokombe au Sankuru et rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, appelle les États-Unis à tirer toutes les conséquences de ces non-respects et à veiller à l'application de l'accord de paix signé à Washington. On écoute Joseph Nkoy dans ce propos recueilli par Grace Amzati.
C'est encore une fois de plus la manifestation par le Rwanda de son comportement de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, et la manifestation aussi de sa détermination à pouvoir semer la désolation en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo et même la déstabilisation de la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour les États-Unis d'Amérique de tirer toutes les conséquences parce que nous ne pouvons pas accepter qu'à l'heure actuelle, au 21e siècle, qu'il y ait un dirigeant africain qui se comporte en étirant au mépris de toutes les instances internationales, de tous les accords bilatéraux et multilatéraux. Notre gouvernement, à ce qu'il y revient, est en train de tout mettre en œuvre pour mettre en condition les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.
Merci de nous suivre à Goma, mais également à Lubumbashi, où il est 13h passé des 7 minutes. L'ONG de défense des droits humains, Justicia ASBL, salue la décision du gouvernement d'interdire toute présence militaire sur les sites miniers du pays. Toutefois, l'organisation estime que cette mesure doit s'accompagner d'une réelle volonté politique afin d'en garantir l'application effective. Selon elle, sans mécanisme de suivi rigoureux, cette décision risque de rester lettre morte comme plusieurs autres prises par les passés sur les mêmes faits, bien sûr. On écoute Timothée Mbouya, président de Justicia ASBL, joint par Jean Gandou.
Cette activité est devenue très rentable et très lucrative au point que les responsables militaires ainsi que les responsables politiques ont tendance à se ruer vers les mines, notamment les mines de cuivre et de cobalt, pour exploiter les permis appartenant à des particuliers avec le soutien de certains investisseurs ou de certains étrangers qui apportent de l'argent frais ou des liquidités. Comment mettre un terme à cela? Justicia pense que les intentions ne suffisent plus. Il faut une volonté politique réelle. Et la volonté politique réelle passe d'abord par la poursuite en justice de toutes les personnes qui sont impliquées dans ces vastes réseaux mafieux qui ternissent l'image de notre pays. Il faut rappeler que même le ministère de la Justice est incapable aujourd'hui de faire poursuivre certains individus à cause du fait qu'ils sont très haut placés et qu'ils disposent de beaucoup d'ancrage dans le pouvoir. Donc, seule la volonté politique au plus haut niveau du chef de l'État peut aider à résoudre définitivement cette question.
Le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes économiques et financières engagées avec les institutions de Bretton Woods. Devant le député national et les représentants du Fonds monétaire international, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Boutaï a rappelé la volonté de l'exécutif de faire de la fiscalité un moteur d'investissement et de création d'emplois. Il s'exprimait mardi lors d'une journée d'échange organisée par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Écoutons le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundéli Botaï, au micro de Michel Kifindangoy.
Nos partenaires du FMI sont en train de nous regarder et nous passons le message que lorsque nous conduisons des politiques économiques, nous devons faire attention au step back, ça veut dire à des actions qui peuvent nous remettre au niveau où nous avons déjà dépassé. L'objectif aussi du gouvernement, c'est de faire de la fiscalité un instrument d'investissement et d'attractivité de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises locales est mise en cause. L'objectif ne devrait pas être nécessairement la mobilisation des recettes sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Des objectifs économiques peuvent aller vers la croissance économique, l'emploi. Les revenus qui vont être générés peuvent permettre à soutenir la consommation et entretenir un cycle de croissance économique avéré. Vous allez constater que le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur l'investissement public. Le gouvernement a beaucoup investi dans les transferts aux provinces. Lorsque vous sillonnez les pays aujourd'hui, il est en chantier.
Au Nord Kivu, le forum provincial sur l'accès à l'eau potable et à l'électricité s'est achevé mardi à Butembo. Pendant 2 jours, autorités, opérateurs du secteur et partenaires techniques ont formulé plusieurs recommandations pour améliorer ces services essentiels. Parmi les priorités figure la construction d'un captage d'eau sur la rivière Taïla et dans les territoires de Beni, ainsi que l'interconnexion de réseaux des Virunga Energy et NK, ça veut dire Énergie du Nord Kivu, les deux principales entreprises qui alimentent en électricité les régions de Beni, Butembo et Lubero. Écoutons un extrait de ces recommandations lues par Consolé Sikakulia, coordonnatrice provinciale en charge des finances et de l'énergie au Nord Kivu.
Renforcer le plaidoyer auprès du pouvoir central et ou des partenaires pour le financement du projet de captage d'eau sur la rivière Taïla. Proposer une régulation du tarif de l'eau en fonction du revenu réel des ménages. Dans le secteur de l'électricité, envisager la révisitation des contrats de concession en fonction des capacités réelles de production et de distribution de l'électricité, plaider auprès du pouvoir central pour la suppression de certaines taxes du secteur de l'énergie qui découragent les investisseurs et qui impactent directement les coûts d'exploitation des opérateurs du secteur d'électricité. Encourager les sociétés NK et Virunga Energy à finaliser les études d'interconnexion de leurs réseaux.
Nous allons partir à Mbujimayi. À chaque période de grandes vacances scolaires, un phénomène bien connu se reproduit dans les salons de coiffure dans cette ville au Kasaï oriental. Il s'agit bien sûr de la flambée des prix des mèches. À peine les résultats de l'examen d'État sont publiés, les jeunes lauréates affluent dans les salons de coiffure pour célébrer leur réussite avec de nouvelles tresses. Elles sont rapidement rejointes par des centaines d'élèves dont les établissements scolaires interdisaient les ports des tresses durant l'année. Cette forte affluence entraîne une demande exceptionnelle en un laps de temps, provoquant une hausse significative des prix des mèches sur les marchés. Esther Ndalafinassine, ses reportages.
Dans les marchés, les commerçantes parlent d'un pic annuel devenu presque traditionnel. Lisette Mitongu, grossiste, évoque la loi du marché. Plus la demande augmente, plus les prix s'envolent.
Auparavant, on achetait les Michel à 2700, ou 2300. Maintenant, les Michel, c'est 2800. On est à 2700 royal. On a acheté ça à 3000. Maintenant, c'est à 4000 francs. Les enfants sont en vacances. Les mèches varient toujours.
Diane Kena, coiffeuse et propriétaire du salon Diaken Beautiful, confirme cette hausse et justifie cela par les vacances des élèves.
Il y a eu aussi des prix, puis il y a carence de mèches au marché. Parce que tous les élèves sont maintenant en vacances, du coup, ils tressent les mèches.
Beaucoup de parents cèdent à la pression sociale. Offrir une belle coiffure à leur fille est devenu un rituel des vacances, un signe de liberté après des mois de discipline scolaire. Mais Janine Mbelou, mère de 5 enfants, dont 3 filles, filles ne parvient pas à satisfaire ses filles suite à la rareté de certaines mèches prisées par les adolescentes.
Il y a d'autres mèches que nous cherchons et que nous ne trouvons pas, comme Royal. C'est ce qui est à la mode, c'est ce que les enfants préfèrent.
La hausse des prix de mèches s'impose désormais comme un rendez-vous économique et social incontournable de grandes vacances au Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
On en parle en République démocratique du Congo, mais elle reste une préoccupation majeure pour la communauté mondiale. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo se propage plus vite que les efforts déployés pour la contenir, vient d'avertir ce mercredi l'Organisation humanitaire médicale mondiale Médecins sans frontières, appelant à un renforcement urgent de mesures de confinement et des soins. Le nombre des cas confirmés d'Ebola a triplé en moins de 5 semaines pour atteindre 1926. Dont 700 et des décès selon les données officielles de dimanche, ce qui en fait la troisième épidémie d'Ebola la plus importante et celle qui se développe la plus rapidement jamais enregistrée, vient d'indiquer MSF.
L'invité.
Notre invité est le recteur de l'université protestante au cœur du Congo, Monseigneur Diedonné Mbaya Tiankanyi. Il évoque les défis qui freinent l'émergence d'une nouvelle élite politique en République démocratique du Congo. Il présente également des pistes pour encourager l'avènement d'une génération de leaders capables de répondre aux enjeux du pays. Cette question donc a été au centre du 5e colloque organisé récemment par l'UPCC. Monseigneur Diedonné Mbaya Tiankanyi s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Monseigneur Mbaya Tiankanyi.
Bonjour madame.
Votre université a organisé le 5e colloque interdisciplinaire sur l'avènement et la formation d'une nouvelle classe politique en RDC, un vœu pieux ou un idéal national crucial. Quelle définition en tant qu'organisateur de ce colloque donnez-vous à l'expression nouvelle classe politique dans le contexte congolais?
L'expression est sorti du constat de la classe politique que nous avons. En tant que pays, nous avons une classe politique composée des dirigeants qui gouvernent, de ceux qui sont dans l'opposition et la succession de différentes compositions de l'élite gouvernante depuis 1960. Mais pendant le colloque, on est même allé à l'époque coloniale pour scruter l'évolution de la classe politique. Et donc, la classe politique, c'est l'ensemble de l'élite qui gouverne ou qui est proche de ceux qui gouvernent ou qui s'opposent aux gouvernants, l'élite qui émerge et qui a le leadership ou la direction d'une manière ou d'une autre du pays.
Quel est l'état des lieux que vous faites de l'actuelle classe politique congolaise?
L'état des lieux a été dressé à profusion pendant ce colloque. À venir, c'est une classe qui n'est pas arrivée à combler les attentes du peuple, de la population. C'est une classe politique qui n'a pas réussi à mettre sur pied un programme cohérent de développement de la nation congolaise et à s'entendre de manière structurelle, fondamentale, pour pouvoir conduire le pays vers son émergence et son développement. Ce qu'on peut considérer comme une faillite, un échec. Nous avons dit qu'il y a 3 échecs cumulés. Et donc on a, en conclusion, dit que c'est une classe politique qui n'a pas mérité.
Quelles sont les principales barrières structurelles, culturelles ou institutionnelles identifiées par le colloque comme freinant l'émergence des nouveaux leaders politiques en RDC?
D'abord, des barrières structurelles. On a vu que le montage des profils robots, des profils du politicien, depuis l'indépendance, on a même tendance généralement à définir la politique comme l'art du mensonge. Et les politiciens ont joué à consolider cette définition dans la conception de la population par le fait que, de manière répétée, ils viennent aux élections, qu'elles soient organisées sous le MPR, parti État, avec voté vert, voté rouge, c'est toujours des promesses fallacieuses, du mensonge. Dès qu'on a gagné ce qu'on cherche, on s'en va, on ne revient que pour s'exprimer à la fin du mandat, pour obtenir un nouveau mandat avec un nouveau mensonge. Votez-moi cette fois-ci, vous verrez ce que je veux faire.
Oui, Monseigneur, quelles sont les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ce colloque?
Plusieurs recommandations ont été formulées, mais de mémoire, je voudrais mettre l'accent sur 3 d'entre elles. La première, Le colloque a proposé que l'État, le gouvernement crée une école nationale de leadership où on va former tous ceux qui sont nommés ou qui sont aspirants aux hautes fonctions de l'État. C'est pas une école idéologique comme Makanda Kabobi, qui n'était pas mauvaise, mais c'est une école où le leadership éthique, le leadership transformationnel, le leadership de responsabilité avec l'éthique à la base. Et la deuxième chose recommandée, c'est que les lois structurelles, comme les lois électorales et d'autres, soient arrangées de manière à ne pas permettre le passage de n'importe qui. La troisième et dernière recommandation que je voudrais mettre en exergue, c'est que même la Constitution, qui est la loi fondamentale, soit aussi dotée de critères qui permettent et aux partis politiques et à ceux qui ont gagné les élections, qui doivent former les gouvernements, et ainsi de suite, pour que on tienne compte de l'élite. Et donc, la Constitution règle un certain nombre de choses. Si c'est dans la Constitution, ça peut permettre de pouvoir faire les choses comme il se doit.
Merci beaucoup, Monseigneur Mbaye Tchakani.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition du journal, supervisée par Jean Gandou, coordination Élisée Chicota, mise en onde Alain Goy et présentation Ronéline Tibonera Idiamine, qui passe le flambeau à Christian Makasinga, qui sera là à partir des 13h.